Bienvenue, il est 8h. Et pour une heure encore, la matinale présentée par Sébastien Krebs.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin sur Europe 1. Théo Manval est là pour vous informer. Bonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le bio, c'est bon pour la santé et pour les marges des supermarchés. L'UFC Que Choisir révèle ce matin que la grande distribution augmente de 3/4 ses plus-values sur ses produits. Le détail dans un instant. Boris Johnson à l'Elysée, le Premier ministre britannique vient plaider pour un Brexit renégocié. Ce n'est pas une option, lui répond déjà Emmanuel Macron. Dans ce journal également, les souvenirs exceptionnels d'une résistante. 75 ans aujourd'hui que Paris a été libéré. Mémoire intacte, vous l'entendrez, de l'une de celles qui s'est battue face aux Allemands. Le manque de main-d'œuvre pour la récolte des Mirabelles, retardée par la canicule. Et puis l'ouverture hier soir du Festival du film francophone d'Angoulême. On y retrouve Mathieu Charrier dans 10 minutes.
Après le journal de 8h, l'éclairage de Didier François sur l'actualité internationale. Donald Trump annule sa visite à Copenhague après la fin de non-recevoir du Danemark à sa proposition de racheter le Groenland. 8h15, l'invité politique, les universités d'été des Insoumis se joueront sans Jean-Luc Mélenchon. Je reçois Manuel Bompard, député européen de la France Insoumise.
Europe 1. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles au discours sur leur santé et sur la préservation de la planète. La consommation de produits bio a augmenté de plus de 30% ces deux dernières années. Eh bien, c'est un business juteux pour la grande distribution. L'UFC Que Choisir dévoile donc ce matin que les marges pratiquées sur les fruits et légumes issus de l'agriculture biologique sont aux 3/4 plus élevées que celles sur les produits classiques, mode des camps.
C'est ce qu'on appelle avoir flairé le bon filon. En moyenne, dit l'UFC Que Choisir, les marges pratiquées sur les fruits et légumes bio dans la grande distribution sont 75% plus élevées que sur les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Et plus un produit plaît aux Français, plus les marges pratiquées sont importantes. Pour la pomme de terre, par exemple, qui est dans le top 3 des fruits et légumes les plus consommés par les Français, les marges sont 83% supérieures aux conventionnels. Pour la tomate, autre favori, 109%. Et la palme d'or revient au poireau avec une marge 165% plus élevée. Certes, les fruits et légumes bio coûtent plus cher à produire, mais pas dans de telles proportions, dit l'association de consommateurs qui accuse la grande distribution de jouer sur la peur des pesticides. Le consommateur soucieux de sa santé n'hésite pas à mettre la main au portefeuille, mais à la fin de l'année, ce consommateur aura déboursé 657 euros pour ses fruits et légumes bio, là où son voisin, qui n'achète que des produits conventionnels, aura payé 379 euros, soit 43% de moins.
Un mode des camps du service économie d'Europe 1.
L'autre grand titre à la une ce matin, c'est ce déjeuner à l'ambiance sans doute un peu fraîche qui s'annonce à l'Elysée.
Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre britannique tout à l'heure à 11h. Boris Johnson en pleine tournée diplomatique avant le G7 pour essayer de renégocier l'accord sur le Brexit. Il rencontrait hier Angela Merkel à Berlin. La chancelière allemande a ouvert la porte à un nouvel accord avec le Royaume-Uni d'ici à la date butoir du 31 octobre. Sauf que Jean-Rémy Baudot, ce n'est pas du tout la ligne que devrait tenir ce matin le président français.
Un report ? Pourquoi faire ? Un Brexit dur ? Le gouvernement britannique en serait le seul responsable. Quant aux propositions faites par Boris Johnson, elles ne sont tout simplement pas une option. Voilà le discours qu'Emmanuel Macron prévoit de tenir aujourd'hui au Premier ministre britannique de passage à l'Elysée. Le président français a promis de lui demander des clarifications alors que l'ancien maire de Londres prétend toujours renégocier le Brexit, agitant le spectre d'une sortie sans accord au 31 octobre. Pour Emmanuel Macron, le Brexit est avant tout, je cite, une crise démocratique britannique dont l'Europe n'a pas à être l'otage, fin de citation. Devant la presse présidentielle, le chef de l'État a mis en avant la sauvegarde de l'intégrité du marché européen et la stabilité de l'Irlande du Nord. Risquer de raviver ce conflit, c'est irresponsable, a martelé le président français. La France qui affirme s'être préparée au pire scénario. Nous sommes à l'heure, on a embauché les douaniers, les experts vétérinaires, explique Emmanuel Macron. Boris Johnson est prévenu. Les concessions ne sont pas au menu du déjeuner.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Boris Johnson, Emmanuel Macron et les dirigeants des 5 autres grandes puissances mondiales qui se retrouveront ensuite samedi à Biarritz pour le G7. Biarritz où les mesures de sécurité, les périmètres bouclés, entreront en vigueur la nuit prochaine à partir de minuit. Impossible pour les riverains de circuler sans laisser passer, délivré actuellement dans un centre municipal spécialement mis en place. Et comme toujours, c'est à la dernière minute que beaucoup se pressent pour les récupérer, Jean-Jacques Herry.
Plus l'ouverture du sommet approche, plus la file d'attente s'allonge. Pour les professionnels du coin, les biarros, pas de surprise. Mais quand on est touriste, comme Lionel venu de Marseille, et qui a loué en pleine zone bleue à accès restreint, c'est plus déstabilisant.
J'ai pris connaissance que le G7 avait lieu ce week-end il y a une dizaine de jours seulement.
Aïe.
Ouais, là, je dois demander un pass pour moi, ma femme, mes deux enfants et pour mon véhicule. C'est compliqué, c'est les vacances. Voilà, on fait avec.
Michel a sa maison dans la zone bleue.
J'ai juste des badges à récupérer.
Le macaron se met sur le tableau de bord de votre voiture et des badges toujours à avoir sur vous.
Je trouve pas que ce soit très compliqué. Vous entendez personne vous péter, vous entendez personne crier.
On croise quand même quelques professionnels un peu mécontents, car lorsque l'on doit intervenir dans la zone rouge, la zone où ont lieu les réunions diplomatiques et où l'accès n'est possible qu'à pied, tout devient plus complexe. Philippe doit obtenir 45 badges pour les employés de son entreprise de nettoyage. Il n'y arrive pas.
On fait la queue pendant 40 minutes pour tomber sur une jeune fille charmante, mais qui malheureusement ne peut rien nous dire. On nettoie des chambres d'hôtel, on est obligé de les faire puisqu'ils sont complets. Donc même si on doit venir à pied parce qu'il y en a qui sont en zone rouge, mais au moins que mon personnel puisse venir travailler.
Des badges continueront d'être délivrés pendant le sommet, notamment pour les touristes qui arriveront ce samedi dans la ville basque. Biarritz, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Et avant le début de ce G7, Donald Trump met lui la pression sur les dirigeants européens. Le président américain menace de libérer les djihadistes français ou allemands détenus en Syrie par les soldats de la coalition arabo-kurde, coalition soutenue par Washington. Libération si ces pays refusent de prendre en charge leurs ressortissants et de les rapatrier pour les juger. Nous n'allons pas garder des milliers de combattants et payer en plus pour ça, s'est insurgé hier soir le locataire de la Maison Blanche.
Europe 1, 8h07.
Deux mois déjà que la sécheresse et la canicule mettent nos régions à rude épreuve et on découvre chaque jour les conséquences des fortes chaleurs de cet été.
Oui, figurez-vous que les producteurs de Mirabelles s'apprêtent à manquer de main-d'œuvre. Alors quel lien, me direz-vous, avec les températures ? Eh bien, elles ont retardé la floraison des pruniers qui arrivent avec 15 jours de retard en Lorraine. Du coup, les nombreux étudiants qui viennent comme travailleurs saisonniers vont repartir avant d'avoir fini la récolte, Arthur Elmaché.
Des Mirabelles par milliers, mises en cagette, en barquette, sur des palettes par 250 saisonniers, Charlotte sur la tête. 250 jusqu'à la rentrée universitaire. Après, ça se complique, dit Renaud Noël, responsable commercial chez Vega Fruits.
Le challenge pour nous cette année, c'est qu'on a une saison qui est un peu plus tardive que les autres années. Travailler dans la filière Mirabelle, c'est quand même un petit peu le job étudiant par excellence. Et on a jusqu'à 50% de nos effectifs qui sont constitués par ces étudiants, qui dès le 2 septembre vont rentrer à l'école. En Lorraine, il y a des dizaines d'années, la rentrée scolaire était calée sur la récolte des Mirabelles. Donc c'est bien dommage que ça ait changé pour nous, mais bon, c'est comme ça.
Alors ici, mon métier, c'est préparateur de commandes. Donc nous, on récupère les commandes, on les stocke, on range le frigo.
Illustration, Mathias, étudiant en sciences politiques.
J'ai commencé le 12 août, parce que la saison a commencé assez tard et jusqu'à septembre.
Ça n'aurait pas été possible pour vous de faire en même temps les Mirabelles et le début de la fac ?
Je suis étudiant à Paris, donc non, c'est impossible.
La coopérative attend les candidatures avec impatience en échange d'un SMIC horaire. On vous demandera de trier des Mirabelles, de les conditionner, voire de faire de la cueillette dans les vergers. Saint-Nicolas-de-Port, Arthur Enbaché, Europe 1.
La suite du journal de Théo Manval avec donc le 75e anniversaire de la libération de Paris.
C'était le 22 août 1945, les drapeaux tricolores qui recommencent à remplacer les terribles croix gammées sur les bâtiments de la capitale. Le combat des résistants s'étale sur plusieurs jours jusqu'à ce que le général de Gaulle puisse prononcer ces mots au sein de l'hôtel de ville « Paris libéré ». Ces moments historiques, on vous propose de les revivre ce matin à travers les souvenirs de l'une de celles qui a œuvré pour que ce soit possible. Elle s'appelle Jeannette van der Schoten, résistante. Elle va avoir 101 ans et Pauline Jacquot a pu la rencontrer dans le Val d'Oise où elle vit désormais.
Je crois que j'ai ma carte encore. Jeannette van der Schoten. Je suis née le 16 septembre 1918.
Elle pose sur la table sa carte du Parti communiste, une médaille de la Libération et quelques photos. Sa mémoire est intacte. À bientôt 101 ans, le regard de Jeannette ne vous quitte pas des yeux bleus, des boucles blanches. Elle s'assoit et se souvient. Août 44, voilà 4 ans qu'elle est entrée en résistance.
Mon premier travail, ça a été d'imprimer, de taper et de distribuer. On a commencé à taper l'appel du général de Gaulle, l'appel du Parti communiste. J'ai fait des distributions la nuit. Quand il y avait, comme on les appelait, les hirondelles, des flics qui passaient, on faisait comme si on était des amoureux. On risquait la mort pour ça, hein. Mais ça ne nous faisait pas peur.
Ce 22 août, Jeannette et ses camarades sont réfugiés dans le 9e arrondissement, rue Saint-Georges, à quelques mètres des barricades.
Notre travail dans la libération, c'était la préparation, sitôt le départ des Allemands. Ça a été notre travail. Dès le début, j'ai été responsable du service social. On avait quelques camarades qui venaient nous dire où s'en était, qui, elle, était sur les barricades.
Les heures passent, mais les Allemands n'abdiquent pas. Les habitants longent les murs et Paris retient son souffle.
On avait peur de circuler. Ils tiraient des étages et ils ont résisté. On a eu peur longtemps. On a fait un travail de fourmi. Paris brûle-t-il ? Non, il n'a pas brûlé.
Le 26 août, le général de Gaulle défile sur les Champs-Élysées. Jeannette ne veut pas se mêler à la foule. Elle pense à Daniel, Pierre, Roger, Jean et Francine.
Ça me fait mal, ça me fait mal. Ça.
Francine Fromont, son amie fusillée 8 jours plus tôt.
On avait dit qu'on y arriverait, mais à quel prix ? À quel prix ?
Vous tous qui restez, soyez dignes de nous. Cette phrase de Guy Môquet ne l'a jamais quittée, son idéal non plus. Dans quelques jours, Jeannette ira souffler sa 101e bougie à la fête de l'humanité. Pour croire encore, saurait-elle, à des lendemains qui chantent.
Entretien signé Pauline Jacquot pour Europe 1. Le maire de Langouette, en Ille-et-Vilaine, comparaît ce matin devant le tribunal administratif de Rennes, attaqué en justice par la préfecture du département pour avoir pris un arrêté municipal interdisant l'usage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations de sa commune. Ses soutiens ont prévu de manifester devant le tribunal. L'audience débute à 9h30.
On termine avec une avant-première. C'était l'ouverture hier soir du Festival du film francophone d'Angoulême.
Avec une séance de gala et la projection du nouveau film de Cédric Clapiche. Ça s'appelle « Deux mois », une fresque sur la solitude des trentenaires dans les grandes villes et sur les illusions de nos vies virtuelles qui ne nous aident pas vraiment, Mathieu Charrier.
Rémi et Mélanie ont en apparence tout pour eux. Ils sont jeunes, beaux, ils ont un emploi. Elle, Anna Girardot, est chercheuse. Lui, François Civil, travaille dans un entrepôt type Amazon. Et pourtant, ils ne sont pas heureux car ils sont seuls. Mélanie dort tout le temps et enchaîne les rencontres décevantes sur des applications spécialisées.
Il n'a pas parlé pendant une heure. Ah, si, à un moment donné, il m'a dit...
J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi.
L'angoisse.
Rémi, au contraire, ne dort plus. Il est dépressif. Et ce sont ces deux histoires que Cédric Clapiche s'amuse à nous raconter en parallèle. Rémi et Mélanie ne se connaissent pas. Ils vivent dans deux immeubles voisins. Et tout au long du film, on espère une seule chose, qu'ils se rencontrent au milieu de cette jungle parisienne qui crée finalement plus de solitude que de liens, explique le réalisateur.
Il y a une espèce de paradoxe étrange dans les grandes villes, c'est qu'on est très entouré et on peut être très seul. Et que cette solitude dans les grandes villes, elle est assez moderne, elle est pas la même par rapport à avant les réseaux sociaux. Ça enfonce les gens fragiles, quoi.
Deux mois est donc une sorte de conte urbain qui parle de notre époque. Un film drôle aussi, car Rémi et Mélanie ont chacun leur psy, François Berléand pour l'un, Camille Cotin pour l'autre.
Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème.
Deux mois dresse le portrait de ces urbains qui souffrent de solitude dans un Paris une nouvelle fois très joliment filmé par Cédric Clapiche. Au Festival d'Angoulême, Mathieu Charrier, Europe 1.
Est sorti en salle le 11 septembre prochain.